Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je te réveille?
Tu as fait le café.
Et notre petit déjeuner?
Vous l'avez déjà pris?
Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner?
La matinale de 8h à 9h sur Radio Campus Montpellier.
C'est important la bonne humeur. La bonne humeur amène le sourire, l'ouverture aux autres.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas vous, mais j'ai une patate moi ce matin.
Ah, moi pareil.
Ta gueule!
Changez le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la matinale, bonjour Montpellier, bonjour Clara, bonjour Gaël. Non, j'ai inversé, c'est pas grave. Nous, on a fait une grasse matinée, j'espère que vous aussi, puisqu'on prend du plaisir ce lundi matin. Est-ce que ça va, vous deux?
Ça va, très bien,
et toi? Ça va, très bien, bon, ça va un peu, voilà, je fais des petites découvertes, des petites expériences ce matin, donc pas mal, puisque c'est ma première matinale.
Pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est Raphaël exactement. Qui est à l'animation ce matin.
Bonjour à tous. Et bonjour à toutes, on va commencer par le flash info de Alam.
Alors, quoi de neuf? Alors, quoi de neuf?
Le flash info de la matinale sur Radio Campus Montpellier.
Tu veux savoir de bonnes nouvelles? Tu veux que je te dise des nouvelles bonnes?
Ouais, c'est quoi tes nouvelles?
Et bonjour à tous, on commence par l'actualité locale. En Occitanie, la situation sanitaire reste très tendue avec toujours beaucoup d'hospitalisations. L'ARS confirme que chez les cas graves, un patient sur deux a moins de 65 ans. En effet, ce sont plus de 1871 hospitalisations et plus de 410 personnes qui sont en réanimation et sont critiques à ce jour. L'épidémie de Covid a fait plus de 3920 décès dans la région. Jean Castex s'est rendu samedi dernier dans l'Aude et l'Hérault où il a rencontré des agriculteurs lourdement touché par l'épisode de gel. Face à l'ampleur exceptionnelle des dégâts, Jean Castex a permis de débloquer des enveloppes exceptionnelles pour aider ses agriculteurs, annonçant dans les médias le déplafonnement du régime d'indemnisation des calamités agricoles. Actu national, Mia, la fillette de 8 ans, et sa mère, Lola Montemaggi, ont été retrouvées en bonne santé hier dans un squat en Suisse. La jeune femme et sa fille, dont elle n'avait plus la garde, ont pris la direction de ce pays frontalier pour échapper à un vaste dispositif de recherche avec la complicité de 5 autres hommes. Ses complices ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête qui a duré moins d'une semaine. Âgés de 24 à 61 ans, ces derniers ont longuement préparé l'enlèvement de Mia, survenu au domicile de sa grand-mère maternelle mardi dernier. La cour d'assises des mineurs à Paris a condamné en appel dans la nuit de samedi à dimanche dernier 5 jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion pour la violente agression de policiers à Viry-Châtillon dans l'Essonne en 2016 et en a acquitté 8 autres, provoquant la colère des avocats et des victimes. Le 31 mars dernier, Emmanuel Macron avait annoncé aux Français le retour du confinement pour une durée de 4 semaines. Le chef de l'État a confirmé hier que la réouverture du pays ne serait pas reportée, malgré une situation sanitaire toujours tendue avec plus de 35 000 nouveaux cas de Covid-19 recensés samedi dernier et près de 5 900 malades dans les services de réanimation et des hôpitaux. Le président a déclaré « Nous allons progressivement lever les restrictions en début mai ». La ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a annoncé le lancement d'un baromètre annuel du harcèlement de rue et de déploiement de brigades en civil dans les zones rouges, l'objectif étant de créer des quartiers sans relou selon elle. Actu international, au moins 7 policiers pakistanais ont été pris en otage hier à Lahore par des manifestants anti-France appartenant à un parti islamiste radical, a indiqué un porte-parole de la police. Depuis hier, à Israël, les masques ne sont plus obligatoires en extérieur, signe d'une première victoire contre le coronavirus. Depuis décembre 2020, près de 5 millions d'Israéliens, soit 53% de la population, ont reçu les 2 doses du vaccin, soit environ 80% de la population âgée de plus de 20 ans, selon les données officielles du pays qui a enregistré quelques 836 000 cas de Covid-19 et plus de 6300 décès. Évitez de tomber enceinte en ces temps difficiles, c'est le message qui a fait passer le gouvernement brésilien aux femmes du pays vendredi dernier. L'idée est de retarder les projets de grossesse le temps que le plus dur de l'épidémie de coronavirus et ses variants soit passé. Si possible, les femmes devraient reporter un peu la grossesse à un meilleur moment afin qu'elles puissent avoir une grossesse plus paisible, a déclaré Rafael Camara, secrétaire du ministère de la Santé. On ne peut pas dire ça à celles qui ont 42, 43 ans, bien sûr, mais pour une jeune femme qui le peut, le mieux est d'attendre un peu, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Et comme toujours, on termine par l'actu insolite. Cette fois-ci, c'est une actu plutôt touchante. En effet, c'est l'histoire d'une retrouvaille en pleine pandémie mondiale qui a touché les internautes. La scène se déroule en Angleterre, les retrouvailles de Mary et Gordon, un couple de retraités britanniques qui s'est séparé pendant de longs mois en raison du Covid-19, bien évidemment, et ont été filmés en partagé sur Facebook, sur le Facebook de la maison de la retraite dans laquelle Marie vivait seule. La vidéo est aussitôt devenue virale puisqu'on y voit Marie qui lâche son déambulateur et Gordon qui pose sa canne. Les deux époux s'enlacent alors au milieu du salon de l'EHPAD et s'embrassent. La surprise s'est réussie puisque Marie ne savait rien de l'arrivée de son époux.
Radio Campus Montpellier, la matinale.
Eh bien, merci Alab de ce flash info très très passionnant et surtout très étoffé. Est-ce qu'on passerait pas maintenant à quelque chose qui nous concerne tous, qui concerne les vivants ? À toi Gaëlle.
Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui dans la chronique, on va parler. Enfin, je voudrais vous parler d'un article que j'ai lu sur le site qui s'appelle The Conversation, qui s'intéresse à la parole chez les singes et qui met en avant un travail réalisé par 9 chercheurs paru dans Science Advance, qui fait état de 50 ans de recherche et de controverses sur le sujet. Ou tout du moins sur la capacité des singes à produire ce qu'on va dire des vocalises qui seraient comparables à des voyelles. Et la question qui se cache derrière tout ça n'est ni plus ni moins que depuis quand nos ancêtres à nous, humains, auraient-ils commencé à utiliser leur conduit vocal, si je puis m'exprimer ainsi, pour parler ? Alors, dans l'ordre des primates, il faut savoir que les humains sont les seuls à utiliser et à posséder un système de communication qui use d'un petit nombre d'unités sonores, les consonnes et les voyelles, que nous, on va combiner pour régénérer en fait ce qu'eux, ils décrivent comme des énoncés porteurs de sens. En gros, ce seraient les mots. Et si on est capable de dater à peu près l'apparition d'Homo sapiens, l'espèce à laquelle on appartient donc, c'est en revanche très compliqué de dater l'apparition de la parole chez l'être humain. Et sur ce point, voici ce que nous dit l'article quand on commence à le lire, c'est « Depuis peu, l'analyse des vocalisations des singes permet de déceler les prémices de l'émergence de la communication grâce à un répertoire de sons et de faire de nouvelles hypothèses donc sur l'émergence de la parole. » Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ce champ de recherche en ces termes ? Eh bien parce que des avancées récentes ont un petit peu bouleversé, dirons-nous, certaines convictions qui s'étaient faites sur le sujet depuis à peu près 50 ans et qui faisaient globalement consensus. Donc on est sur un changement de paradigme. Pour comprendre de quoi il retourne, il faut donc remonter un peu dans le temps. Avant les années 60, des recherches aux États-Unis avaient tenté de voir si des chimpanzés, donc une espèce très proche de la nôtre, pouvaient apprendre à parler en les élevant dans des familles humaines auprès de bébés et de parents humains. Sur les quelques essais menés, les résultats se sont avérés négatifs. Et ce, même si l'un des chimpanzés avait tout de même appris à prononcer « papa, maman, cup, œuf, ti ». Mais celui-ci ne les utilisait pas toujours à bon escient et surtout, il ne semblait pas arriver en fait à les assembler pour faire une phrase. Donc, quelle pouvait être la raison de cette apparente incapacité à apprendre à parler ? C'est la question que s'est posée un chercheur américain, Philippe Lieberman, dont les travaux remontent aux années 1969. Et celui-ci proposait comme explication donc, la théorie de la descente du larynx, qui est la théorie qui a fait consensus jusqu'à très récemment. Donc le larynx, pour vous situer la chose, c'est la partie de la gorge, c'est une partie de la gorge, pas celle qui se trouve juste au fond de votre gorge, ça c'est le pharynx, mais juste un petit peu en dessous, soit à peu près au niveau de la pomme d'Adam. Plus bas, c'est ce qu'on appelle la trachée. Et par ailleurs, petite information qui peut être utile pour comprendre pourquoi je vous explique ça, c'est que c'est dans le larynx que se situent les cordes vocales. En comparant donc le conduit vocal d'un humain avec celui des singes, on remarque que par rapport à la bouche, en fait, ces derniers donc, ils ont un pharynx qui est beaucoup plus haut que celui de chez les humains qui, avec le temps, en fait, il est descendu. Et en fait, ce serait cette position haute du larynx chez les singes qui ferait qu'ils ne pourraient pas produire les trois voyelles I, A, U. Et qui fait que donc ils pourraient pas faire ce qu'on appelle des voyelles différenciées, qui sont pour ces trois-là en fait utilisées dans la totalité des langues du monde. Ça c'est la théorie qui a prédominé pendant 50 ans, mais aujourd'hui elle, en réalité, elle résiste très très mal à l'analyse avec les nouvelles connaissances qu'on a. Et les progrès récents de la recherche sur la parole, ils mettent en fait le doigt sur trois conclusions majeures. C'est que premièrement, chez les primates, la descente du larynx, elle se trouve pas, elle s'observe pas uniquement chez les humains. Deuxièmement, cette fameuse descente, elle n'est pas nécessaire pour produire les voyelles I, A, U. Et troisièmement, chez les primates non humains, il y a des vocalisations qui émettent ces trois voyelles. Et entre autres, les résultats montrent qu'en effet, donc, les vocalisations qu'on appelle des cris, c'est comme ça que les primatologues en fait les nomment, et ben, se répartissent dans un espace entre justement le I, le A et le U. Et donc tout ça, ça vient foutre par terre en fait la fameuse théorie de la descente du larynx. Et ça, ça réfute 50 ans de consensus sur le sujet, et ça repousse également l'aube de la parole, qui était estimée jusqu'alors à 200 000 ans à peu près, quelque chose comme ça, à plus de 20 milliards d'années. Ce qui est quand même un petit saut dans le temps. Donc la production de la parole, pour la faire très court, hein, est terminée. Ça recrute l'ensemble, un ensemble anatomique qui sert pas juste à produire des sons. Sons qui sont produits par la vibration des cordes vocales, qui sont dans le larynx, si vous m'avez tout bien suivi jusqu'ici. Ces sons sont modifiés par la forme du conduit vocal et émis au niveau des lèvres. Donc pour l'essentiel, la parole est déterminée en fait par la position de la langue, de la mandibule et des lèvres. Ce qui fait que c'est pas les cavités anatomiques, comme ce qui était dans la première théorie énoncée, qui sont à l'origine de ça, mais bien la forme globale du conduit qui permet de parler. Et donc en toute fin d'article, on peut lire ceci. Avec le recul, cette théorie peut être considérée comme un cas d'école de contagion des idées, étudiée par des spécialistes de la représentation mentale. Il est maintenant à relancer les études sur la production vocale des singes, qui manifestement, ont encore beaucoup à nous apprendre sur l'émergence de la parole chez l'être humain.
Radio Campus Montpellier, la matinale.
Ça fait dire dans quelques années peut-être une émission qu'avec des macaques autour de la...
J'irai peut-être pas jusque-là.
Ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'ai hâte d'entendre ça.
Moi, je suis toujours émerveillée de voir à quel point on peut foutre par terre un consensus qui a duré depuis hyper
c'est
longtemps.
Fou, hein. Super rapidement comme ça.
Voilà.
Moi, ça m'a fait penser, pendant ta chronique, au film La planète des singes avec César qui parle à la fin.
Ouais,
j'avais vraiment ça en tête.
Spoiler!
Oui, bon, bah, c'est bon, tout le monde l'a vu. Hein.
Non, mais c'est vrai, en plus, on les voit faire. Enfin, Elon Musk, là, j'ai l'impression qu'il est là-dedans dans l'intelligence donnée aussi à des singes, en tout cas en termes de jeux vidéo et tout ça. Donc, j'ai vu ça dernièrement. Donc, c'est vrai que t'as l'impression qu'on va devenir encore plus con qu'eux dans les années qui vont venir. Donc, pourquoi pas? Mais effectivement, mais en fait, c'est limite un truc de. Ils sont plus performants sur certaines choses, mais du coup, ils n'ont pas le bagage social et tout qu'on a. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est
après, c'est une société qui est différente. Hein. Ici, on avait parlé une fois sur une chronique sur la culture chez les êtres humains. On a des sites archéologiques qui remontent à plus de 4000 ans chez les chimpanzés pour apprendre la taille des pierres comme outil.
Ah oui. Ça évolue pas trop.
Donc c'est juste une société qui est différente de la nôtre, mais en vrai ils sont pas plus cons, ils sont juste différents.
Oui effectivement, mais c'est vrai que sur certaines choses ils sont plus performants peut-être. Donc,
peut-être.
C'est drôle. On va faire notre première pause musicale avec Macadam. Bye bye. Yeah.
Radio Campus Montpellier, la matinale.
Vous l'avez entendu, vous êtes toujours dans la matinale, une matinale écourtée, une matinale un peu exceptionnelle, mais Clara est toujours là pour mettre des coups de poing, on va dire.
Exactement.
Men are dicks and selective castration is our only hope.
Oh. Empieza el matriarcado.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique Coup de poing. Ce matin, on va parler de deux événements qui ont eu lieu il y a quelques semaines et qui ont plusieurs points communs. Parce qu'ils ont fait polémique, ils concernent deux femmes, des mecs se sont permis de faire des critiques sur leur corps alors que comme d'habitude, on leur avait rien demandé, et ces deux femmes se sont prises une bonne grosse vague de sexisme dans la gueule. Alors vous l'aurez peut-être deviné, les deux personnes dont je parlais sont Corinne Massiero et Oshi. Lors de la 46e cérémonie des Césars qui a lieu le 12 mars 2021, l'actrice Corinne Massiero s'est littéralement mise nue lors de son discours, notamment pour illustrer le fait que le monde de la culture est précaire et donc quelque part mise à nu lui aussi. Société patriarcale oblige, les gens en général se sont bien plus insurgés par rapport à son corps et au fait qu'elle se soit mise à nu que par rapport à ce qu'elle dénonçait. Des parlementaires du Parti Les Républicains l'ont même signalé au procureur de la République pour exhibition sexuelle, je cite. Ah tiens, c'est marrant ça, quand le comédien Sébastien Thierry s'est dénudé sur la scène des Molières en 2015, personne n'a trouvé à dire quelque chose. On y a même vu de l'audace. Mais là, attendez, c'est une femme, donc bien sûr qu'on va instantanément sexualiser son corps et critiquer son geste. C'est aussi grave de voir l'impact qu'a le corps d'une femme de 57 ans, de voir comme il dérange. Mais spoiler alerte, au-delà de 30 ans, les femmes existent toujours, leur corps aussi, et on va pas se cacher juste parce qu'on ne ressemble plus à des jeunes filles. Donc ça, c'était l'histoire numéro 1. Un peu moins d'un mois après les Césars commence l'histoire numéro 2. Le 6 avril dernier, le chroniqueur de musique Fabien Lecoeuvre a déclaré en parlant de la chanteuse Oshi.
Bon, quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable, mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Non mais quand je dis ça, j'ai rien contre cette fille qui est géniale, mais et qui a du talent, je l'ai reçue avec son succès ta marinière, oui. qui est géniale. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes, comme des Vanessa Paradis, comme il y a eu des Vartan, même des Sheila à 20 ans, ou des Françoise Hardy, enfin des gens. Il y a plein d'interprètes magnifiques.
À raison, cet extrait a rapidement fait scandale et a choqué à peu près tout le monde. Et oui, il serait quand même temps que le sexisme choque. Oshi a reçu un soutien massif sur les réseaux sociaux, aussi bien d'inconnus que de célébrités. Suite à la polémique, Fabien Lecoeuvre a osé claquer sur Twitter pour s'excuser entre guillemets, je cite « Mille excuses pour ces propos maladroits sortis de leur contexte et qui ont pu te blesser. Je relatais simplement une différence d'époque où les maisons de disques et les publics faisaient beaucoup plus attention au physique des artistes qu'aujourd'hui. » Alors non, en fait, ces propos ne sont pas des propos maladroits, mais bien des propos sexistes et qui n'ont absolument pas lieu d'être. On parle quand même d'artistes, de musique, d'art et le mec vient ramener ça au physique des gens. Le journaliste de l'émission Armada, qui s'appelle Frédéric Julien, n'a pas fait mieux non plus, car il s'est contenté de rigoler lorsque ses propos ont été dits et n'a absolument pas intervenu pour contester quoi que ce soit. Oshi a bien sûr réagi en disant à quel point c'était grave et misogyne. Elle a aussi souligné que ce genre de propos était fréquent dans la société et chez certains journalistes et chroniqueurs. D'ailleurs, ce genre d'attitude renvoie au regard masculin qui est présent chez beaucoup d'hommes cisgenres et qui est aussi appelé le male gaze. Donc le male gaze, c'est un concept forgé en 1975 par la critique cinématographique Laura Mulvey et qui est devenu un concept important dans la pensée féministe. Le terme to gaze signifie en anglais regarder fixement. Ce regard masculin signifie donc une certaine manière de représenter le corps des femmes en fonction des critères propres au régime patriarcal. L'univers du cinéma, de la télé, de la publicité et des jeux vidéo ont participé à la construction symbolique et sociale du personnage féminin selon ces critères. Par exemple, il y a quelques années, la femme était renvoyée à une image de mère au foyer qui s'occupe de son mari et de ses enfants. Aujourd'hui, l'image de la femme idéale, entre guillemets, selon les normes patriarcales, c'est plutôt une femme sexualisée, réduite à ses critères corporels, qui a seulement pour but de plaire aux hommes. Et on le ressent dans toutes les strates de la société, dans la rue, au travail ou encore dans les établissements scolaires. On a toutes connu le regard persistant et gênant de certains mecs qui nous regardent comme des bouts de viande ou qui nous jugent perpétuellement. Les propos de Fabien Lecoeuvre sont une représentation parfaite de l'injonction aux normes de beauté faites aux femmes et de ce male gaze. Lorsqu'il dit qu'Oshi devrait donner ses morceaux à des filles sublimes et qu'il regrette que les maisons de disques ne fassent plus attention au physique des artistes, il ne considère absolument pas le talent des artistes et se concentre seulement sur leur physique, au profit de son seul plaisir, et cette pensée renvoie à l'idée encore trop présente que le corps féminin sera avant tout une propriété commerciale des hommes. Alors non, monsieur Lecoeuvre et tous les autres, on n'est pas là pour vous plaire et pour être belle, et si vous n'arrivez pas à comprendre ça, eh bien on vous a rien demandé, donc foutez-nous la paix.
La matinale, Radio Campus Montpellier.
C'est fou ces raclures de bidets là dans les médias, ces hommes comme ça qui...
Ouais, et du coup après ce journaliste s'est défendu sur Twitter quand il a vu que ça faisait polémique, il a dit non mais en fait c'était ma première émission, je rigolais parce que j'étais gênée et tout, mais moi j'ai regardé la vidéo parce que c'était filmé, et le mec se tape clairement des barres, et en plus il acquiesce, il dit ah oui c'est vrai... Quand Fabien Lecoeuvre dit oui, des femmes je sais plus qui l'a cité, mais des femmes considérées comme belles. Et il est en mode oui, c'est vrai. Donc, mec totalement hypocrite, quoi. Plutôt, il n'assume pas.
Et puis le parallèle que tu faisais au début, c'est vrai, entre Corinne Maziro et le comédien il y a quelques années au Molière. C'est vrai que ça, c'est fou. Et surtout qu'en plus, Corinne Maziro, pour avoir regardé les Césars, le faisait pour défendre les costumiers et costumières. Donc, il y avait un sens, à ce propos.
Oui, et c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait, ce sens a à la limite été totalement oublié quand on a relaté cette histoire, parce qu'on parlait que de ça, du fait que ce soit mise toute nue, mais on a oublié pourquoi elle l'a fait. Alors que c'est le message principal, quoi.
C'est vrai. Et puis même, les Césars ont été critiqués surtout pour ça, alors que c'était l'une des seules qualités, en tout cas, des Césars.
Surtout après ceux l'année dernière, qui était totalement horrible.
Ne prononçons pas Polanski, bon, c'est fait, dommage. On va faire notre seconde pause musicale avec un morceau de The Orion Experience, qui s'appelle Starchild.
Wings and fly, that's what you are, my beautiful star child. You are the light and the hope of the world.
La matinale, Radio Campus Montpellier.
Vous êtes de retour dans la matinale et maintenant c'est l'heure de ma chronique personnelle. Pour ce premier billet d'humeur d'investigation absurde réalisé en compagnie de Gilbert Dubois, journaliste indéfectible, je me suis intéressé à un outil primitif de notre quotidien, les chiffres. Et oui, il en est question en ce moment, car la France a dépassé le seuil des 100 000 morts de la Covid et le gouvernement entend bien rendre hommage aux victimes. Pour l'instant, rien de surprenant, mais bizarrement, ce n'était pas prévu avant de savoir qu'on allait dépasser ce nombre à 6 chiffres. Est-ce que ça veut dire que si le compteur s'était arrêté à 99 892 morts pour la Covid, on n'aurait pas eu d'hommage national ? Bah, visiblement oui. Et si l'on creuse dans l'absurde, on peut se demander si l'hommage national à Johnny Hallyday le 9 décembre 2017 signifie qu'un Johnny vaut un stade de France plein plus un Parc des Princes à moitié plein. Alors pourquoi pas, en même temps, il a rempli plusieurs fois le stade donc, du Parc des Princes et même du Stade de France. Cette problématique de déséquilibre de la valeur de la vie de telle ou telle personne ne date pas d'hier et paraît simpliste car elle ne prend pas en compte donc, l'aura culturelle, sociale, politique et même religieuse de certaines personnalités. Et pourtant, cette logique mathématique assez surprenante fait des émules et a même créé une nouvelle numération en vogue. Gilbert Dubois est avec nous donc pour évoquer cette étrange mode. Bonjour Gilbert.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Vous êtes actuellement à Poitiers où cette numération célébritaire a été créée. Dites-nous en plus sur ce système de numération si particulier.
Effectivement Raphaël, cette numération célébritaire sert à calculer des grands chiffres à l'aide de célébrités naturellement, classés selon leur importance dans la société française. Le chiffre 1 étant représenté par le français moyen et comme vous l'avez dit, Johnny Hallyday ayant lui une valeur de 100 000 français moyens faisant office de maximum.
Alors c'est très surprenant, mais est-ce utile?
C'est ce que critiquent les détracteurs, mais l'usage serait surtout pour simplifier les gros calculs et notamment ceux des grandes villes, les recensements par exemple.
Passionnant, mais si par exemple je vous dis une ville avec 3 Patrick Timsit multipliés par 2 Céline Dion moins 3 reines d'Angleterre, ça fait combien en habitants normaux?
Alors, excellente question. Alors, laissez-moi faire la conversion. 60 200, je retiens 3, j'enlève 6450. Ça nous fait un total de 3437.
Ah oui, c'est nettement plus simple à calculer. J'imagine que ces valeurs sont en constante évolution vu le changement, les bad buzz ou les stars montantes, j'imagine.
Tout à fait, Raphaël. C'est la crazy de la complexité de la numération célébritaire. C'est qu'elle bouge tous les jours. Par exemple, prenons Gérard Darmon qui, après son blackface, a perdu 760 de valeur en une seule journée. Vous rendez compte?
Oui, je vois. Ça reste à perfectionner en tout cas. Mais merci Gilbert donc, et à la prochaine fois pour une prochaine investigation.
Ce fut un plaisir. À la prochaine, Raphaël.
Grâce à cette investigation précieuse, on voit qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité et pas toutes non plus. Et ça, même 6 pieds sous terre. Et surtout, les chiffres ne racontent rien de nous, rien de ces 100 000 personnes. C'est plus frustrant au final. Est-ce que 100 000 personnes, mais ces 100 000 personnes, c'est qui? Comment on leur rend hommage personnellement? Ou sinon, pourquoi pas faire une généralité avec une deuxième flamme sous l'arc de triomphe pour le patient inconnu? Mais au final, quel que soit cet hommage, rien de plus sûr, il ne vaudra certainement pas de Charles Aznavour.
Radio Campus Montpellier, la matinale.
Et oui, cette question de rendre hommage à 100 000 personnes mortes du Covid, comment on fait?
Oui.
Ça, c'est un peu le challenge parce que on peut pas faire un truc qui plaît à toutes les familles, ça c'est sûr.
Moi, j'ai bien aimé le patient inconnu.
Ouais, le patient inconnu, pourquoi pas, hein. Une deuxième femme, ouais, ça peut être une...
Mettons ça à la même échelle que la guerre mondiale.
Ouais, voilà, pourquoi pas. Non, en fait, non, mais c'est vrai que c'est vraiment une question, c'est pas trop. Ils vont demander un artiste, certainement, mais bon, ce sera un artiste qui vaut 100 000. Voilà, pourquoi pas.
Encore un autre débat.
Encore un autre débat, tout à fait. On va faire encore une pause musicale avec un morceau de The Crime Weaves, donc Dang and This.
about the girl I could have been, my dear. Cause in the night I know you burn with feelings I cannot return, my dear. Oh my dear, you've gotta know that this won't last. Desperation will erase the fact I'm keeping all of the answers in my cigarette box. Yeah, the answers in the second floor, the other shoe drops. And if you're blind to that, I am fine with that.
Radio Campus Montpellier, la matinale.
9h02 dans la matinale, on dépasse un peu, mais bon, on a tous les droits ce matin. Clara, c'est quoi le temps aujourd'hui? Est-ce qu'il va faire beau?
Eh bah, on aura une semaine mitigée qui nous attend, parce qu'aujourd'hui ça va, on aura du soleil jusqu'à 14h. Mais la fin d'après-midi va se couvrir un peu avec quelques nuages. Du côté des températures, il fera 10 à 15 degrés ce matin. Et cet après-midi, on ira jusqu'à 18 degrés. Donc il fera quand même assez doux. Mais on aura un petit vent de 30 km/h quand même. Mardi fera à peu près le même temps qu'aujourd'hui. Mais le temps se couvrira dès mercredi avec des températures plus fraîches tournant autour de 10 petits degrés. De la pluie et même un risque d'orage le matin. Mais normalement, on aura des plus belles journées jeudi et vendredi, car le temps sera globalement ensoleillé, avec tout de même des petits nuages par-ci par-là, et des températures allant de 10 à 15 degrés. Ce matin, le soleil s'est levé à 6h51, il se couchera ce soir à 20h48. Et avant de partir, on fête une bonne fête au MA. Bonne journée tout le monde.
La matinale, Radio Campus Montpellier.
Alors, on va faire de tête le programme de la journée, donc évidemment... Ah, du campus. En plus, je ne m'adresse pas du tout indirectement à la technique qui a le programme devant les yeux ou pas loin. Elia salue les PD à 13h, évidemment. Univox à 13h30, rendez-vous. Starting Block après à quelle heure déjà? Je ne me souviens plus. 17h30, c'est vrai, j'avais un trou de mémoire. Et on suivra par... le soir, il y aura Sport and Chill aussi, mais ça sera pas un peu plus tard. Mais avant, il y aura Shook Twist à 18h, évidemment. Et... naturellement, Campus Hi-Fi à 21h, pas du tout de Sport and Chill aujourd'hui. Mais si, ça sera à 19h, je ne fais pas du tout ça à l'aide de la technique. Merci Arnaud. J'espère que cette émission exceptionnelle, mais voilà, avec beaucoup de plaisir. Je remercie Gaël qui est parti et je te remercie Clara et merci à la technique pour cette superbe émission.
C'était une très belle émission tout de même.
Très belle émission, évidemment. On s'est levé sans savoir qu'on allait faire ça.
C'est la surprise, on casse le quotidien, la routine. Voilà.
C'est ça, casser les codes un peu, exactement. Je me sens un peu comme votre Léna situation du lundi. C'est beau. On va finir par un morceau de The Poor Mind Poison en vous souhaitant une très bonne journée. Ça s'appelle Feed the Machine. Here's to the greater good for all.
ground. Let's all just blindfold the poor. We must remind them what's in store. We got them now, just break them down a little bit more. I said, hey, you feed the machine. Bring them all back down to their knees. No time to waste. Remind the slaves, they ain't gonna make it out alive today. I said, hey, you poison the well. Watch it all burn, take him straight to hell. He's got the whole world in his hands. It was nice to know you. We've all been damned, come on. Nothing's going on, no need to fear. Together. And just to make it all clear, we want the same thing as you. This will all be over soon. Now here's a little pill, here's the truth. Remind the slaves, they ain't gonna make it out alive today. I said, hey, you poison the well. Watch it all burn, take him straight to hell. He's got the whole world in his hands. It was nice to know you. Bob been damned, come on. Remind the slaves, they ain't gonna make it out alive today. I said, hey, you poison the well. Watch it all burn, take him straight to hell. He's